Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Rachel, la servitude montait jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et Dieu regardant les enfants d'Israël, il en eut compassion. Ce matin, je vais vous parler de la compassion. Le texte dit qu'ils n'ont pas prié, ils ont crié. Ils criaient, ils trouvaient ça injuste, on leur mettait des fardeaux, ils étaient des esclaves. Ils criaient, puis ces cris-là montaient à Dieu. Ça m'a fait penser à Abel quand il est mort. Dieu va dire à Caïn, « Le cri du sang de ton frère est monté jusqu'à moi. » C'est quand même spécial, le cri du sang de ton frère. Ailleurs dans la Bible, on voit « L'Éternel entend la voix de tes larmes ». Tu sais, quand quelqu'un, il a le moton, là, puis qu'il vient les yeux pleins de larmes, puis qu'il n'est pas capable de parler, là, puis tu sais que ses larmes contiennent beaucoup plus que ce qu'il est en train de te dire. Le texte nous dit « Dieu entend la voix de nos larmes ». C'est quelque chose. Je vais vous parler de cette compassion-là qui est dans le cœur de Dieu. On a vu ce passage-là dernièrement. Justement, il entend la voix de mes larmes ou il recueille mes larmes dans son outre. Puis dans l'Apocalypse, les prières de tous les saints sont dans son outre, comme un parfum devant lui. Puis on disait comment c'était important d'avoir un temps seul avec le Père, parce que Jésus le faisait souvent. Il allait être seul avec son Père avant de faire des grandes décisions. Puis un des points, c'était parce qu'on a, une vie particulière, puis on n'a pas les mêmes souffrances, les mêmes tourments, les mêmes difficultés, les mêmes défis, puis Dieu veut nous voir tout seul, pas en groupe. On peut être en groupe ce matin, mais Dieu veut nous voir aussi tout seul. C'est des cris qui montaient à Dieu, pas des prières nécessairement, et Dieu, ça le touchait. Puis Dieu n'est pas insensible à la souffrance que les gens vivent, que ce que vous vivez. Le texte dit, il regarda, bien premièrement, il a entendu, ensuite, c'est écrit, il regarda et il a été touché, il a eu compassion. Il a regardé, il a été touché, puis il a dit, je vais faire quelque chose. Le passage d'après, tout de suite, c'est l'appel de Moïse. Dieu va dire à Moïse, il va apparaître dans un buisson ardent, puis il va lui montrer qu'un arbre qui serait supposé de brûler ne brûle pas. Puis ça deviendrait un Moïse rempli de la présence puis de la gloire du Seigneur qui ferait un ministère pour lui d'aller délivrer. Mais il ne brûlerait pas dans ce processus-là. Dieu prendrait soin de lui, puis il ne serait pas détruit dans ça. Là. Il s'occupait de quoi dans ce temps-là? Il s'occupait des brebis de son beau-père. Puis Dieu dit, j'ai d'autres brebis pour toi. J'ai d'autres brebis, j'ai eu compassion d'eux autres. Puis, là, il va lui dire la même chose. J'ai vu la misère qu'ils vivent, j'ai entendu leurs cris, et je vais venir les délivrer. Puis il va dire le terme, je vais descendre pour les délivrer. Dieu, tu n'es pas partout. Comment ça se fait que tu vas descendre? Comment ça tu t'es tourné pour regarder? Tu es un Dieu qui voit tout. Et il va lui dire la même affaire. C'est comme si Moïse avait besoin de télécharger la compassion de Dieu envers ces gens-là. Pourquoi je quitterais les brebis de mon père pour aller m'exposer au pharaon, tu sais, puis à tout ça? La compassion, ça vient parce qu'on entend la douleur des autres. On prend le temps aussi de la regarder, puis à quelque part, la compassion, c'est une passion avec des pieds. C'est pas une passion, c'est pas juste oh, ça me touche, qu'est-ce que tu vis. J'étais avec un repas avec Alison et François hier, puis on parlait d'une situation difficile, puis Alison a dit je pourrais aller m'occuper de cette personne-là, puis toi, tu pourrais aller t'occuper de cette personne-là. C'est ça, la compassion. La compassion, c'est de dire je vais faire quelque chose avec ce que je sais, hein, de ce que la personne vit. Là, on entend des explosions à Beyrouth, des systèmes bancaires qui s'effondrent, la pire crise humanitaire au Liban de notre siècle, dans le monde entier. Là, c'est dans les 3-4 pires catastrophes. On entend l'Afghanistan, que les soldats ils laissent les 20 ans d'armement aux talibans. On entend en Haïti un tremblement de terre qui est aussi pire qu'en 2010. Mais là, c'est comme à un moment donné, on devient indifférent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se donner à toute la misère du monde. Puis tu dis, crème, il y en a trop, là. Tu sais, là, il y a des enlèvements, alerte Amber, tout ça. Puis le danger de voir tant de misère dans notre monde, c'est d'en devenir indifférent parce qu'on ne peut pas tout faire pour secourir ces besoins-là. Puis on dit, bon, ben, chacun sa misère, finalement. Mais on devient indifférent. Puis ce que je veux vous parler en introduction, c'est de ne pas endurcir nos cœurs. Donc, entendre la douleur d'une personne, il faut que ça y aille relativement bien dans ma vie. Parce que sinon, j'entends la voix de ma douleur. Quand ça va mal pour moi, j'entends ma douleur. Quand ça va mal dans mon couple, c'est ma douleur que j'entends, c'est pas la douleur de l'autre que j'entends. Quelqu'un qui souffre est concentré sur lui-même. Le Seigneur veut prendre soin de nous pour qu'on puisse aussi être ouvert à d'autres douleurs, à des gens qui sont autour de nous. La compassion, c'est de s'identifier à la souffrance de l'autre. On écoute l'autre, puis on cherche pas nécessairement à creuser pour connaître tout, mais on écoute, on entend les histoires. Dieu regarda. Le Dieu Tout-Puissant se tourne pour regarder. C'est drôle, hein? C'est comme si Dieu l'avait écrit pour nous. Parce que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Mais là, il s'est tourné, puis il a regardé. Il dit, il regarda. Il avait entendu leur cri? Ah, il entend. Dieu a des oreilles pour entendre. C'est spécial. On dirait que c'est écrit pour nous, pour qu'on puisse comprendre que ça nous console de savoir que Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons et ce que les gens vivent. Dans le psaume 34, 18, ça nous dit « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Puis Dieu dit « Je vais faire quelque chose. » Donc il entend, il se tourne pour regarder, puis il va faire quelque chose. Dieu entend des besoins des gens qui sont autour de nous, puis vous n'êtes peut-être pas appelé à être pasteur pour quitter les brebis que vous êtes en train de vous occuper pour devenir un pasteur de gens. Par contre, je parlais avec le Claude, celui qui nous a amené à faire du porte-à-porte à Victo hier, puis il disait, je pose souvent la question aux gens, connaissez-vous des chrétiens évangéliques? Il dit 99% du temps, ils disent non, parce qu'on est juste 0.5% ici au Québec. Puis il dit, vous êtes peut-être la personne chrétienne qu'ils vont rencontrer puis qu'ils vont entendre le message avec vous autres aujourd'hui. Fait que vous n'êtes pas nécessairement appelé à être des pasteurs comme Moïse, quitter un métier à temps plein pour s'en aller à faire un métier là dans l'œuvre du Seigneur nécessairement, mais vous avez tous quelqu'un, puis c'est ça que je disais au porte-à-porte hier, je disais aujourd'hui je vais rencontrer 10 personnes, sur les 10 que je vais rencontrer, il y en a un qui a déjà pensé au suicide ou il contemple le faire. Puis j'ai dit, vous n'êtes peut-être pas cette personne-là, mais vous avez au moins une personne sur 10 autour de vous qui souffre en silence. Je vous encouragerais à lire ce livre-là. C'est un livre sur la prévention du suicide. Dieu est sensible aux besoins des gens qui sont autour de vous. Puis comment est-ce qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à cogner à votre porte pour vous montrer qu'il y a quelqu'un près de vous qui a un besoin à satisfaire, puis vous pouvez légitimement faire quelque chose pour cette personne-là. Vous pouvez être en train de revenir de la clinique de vaccination, puis vous voyez un Africain à Victo. C'est probablement quelqu'un qui arrive de l'Afrique, puis qu'il n'y a pas encore de char, puis qu'il essaie de s'en sortir. Puis il s'appelle Hector, puis il se fait un an qu'il est ici, il vient du Congo. Puis il n'y a aucune voix dans le ciel qui dit « Fais demi-tour, va l'embarquer ». Non. Il y a quelqu'un que si tu te mettrais dans ses sandales, tu dirais, je ne sais pas combien de kilomètres il faut qu'il marche, mais peut-être que je pourrais faire quelque chose pour lui. Là, vont venir toutes nos peurs. Ah, ben là, c'est un homme, moi, je suis une femme. C'est toutes sortes d'affaires qui vont venir. Puis à un moment donné, vous allez dire, sais-tu quoi? Je peux le faire. Ça n'a pas de l'air dangereux. Je le fais. Puis vous n'entendrez pas une voix du ciel qui va s'ouvrir et vous dire, waouh, t'as fait vraiment, qu'est-ce que je t'ai appelé à faire, tu sais? Mais vous allez pouvoir lui dire, savez-vous quoi, je suis un chrétien, puis je sais que Jésus vous aime, puis j'avais le goût de vous rendre ce service-là. Je vous souhaite une belle journée. Juste rappelez-vous que Jésus vous aime. Pas plus que ça. Puis c'est très terre-à-terre. Puis d'autres fois, tu vas dire, oh boy, l'Afghanistan, les talibans, je peux rien faire. Là. Je peux vraiment rien faire, mais je peux prier. Et là, vous allez commencer à prier pour des besoins qui sont au-delà de votre de votre portée. Mais la compassion, c'est de se mettre dans les chaussures d'un autre puis de réaliser que vous avez quelque chose que l'autre n'a pas. Comme par exemple, si on a la paix, on a la liberté de se rassembler ici, personne ne veut nous lancer des roches parce qu'on vient à l'église, tu sais, puis de dire « Ah, ben il y a tellement de misère dans le monde, là. Ah non, je ne regarderai pas ça. » Non, non, intéresse-toi à ce qui se passe là, à les 50 millions de réfugiés dans le monde qui ne sont pas chez eux, puis essayez de vous mettre dans les chaussures de l'autre. Ça va aider à la compassion en commençant à prier. Deuxièmement, regardez. Prenez le temps de savoir comment les gens vont, surtout ceux qui ont des besoins hors portée, que vous ne pouvez rien faire pour eux, mais vous leur avez dit que vous priez pour eux. Rappelez-les une semaine après ou deux semaines après pour voir comment Dieu a répondu à cette prière-là. Vous allez voir, vous n'allez pas juste occupé par votre facture que vous avez besoin de payer pour la fin du mois, vous allez commencer à être préoccupé vers autrui. Puis on va devenir des chrétiens qui ne vivent plus seulement pour eux, mais aussi pour ceux, pour les autres. Et le cœur du Père va commencer à couler en vous. Il va continuer à couler en vous parce que vous avez pris soin des autres. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand vous priez pour Dieu, vous cultivez les larmes du Seigneur pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est naturellement préoccupé par sa propre personne, par nos propres problèmes. Mais quand on va commencer à prier pour les besoins d'autrui, on va commencer à avoir des lunettes de comment les autres vont. Alors, on va commencer à avoir une compassion, puis Dieu va dire, voici une personne qui ne pense pas seulement à elle, elle va de mieux en mieux, elle est capable de penser aux autres aussi. Et là, va venir dans votre cœur des larmes qui ne sont pas les vôtres. Steph, elle me dit des fois, pourquoi t'as pleuré pendant le message? J'ai aucune idée. J'avais une poussière dans l'air, mais des fois, je suis ému, puis là, je pleure, puis là, tout le monde, on se sent un peu mal. Là. Mais je sens le cœur du Seigneur pour son Église ou pour une situation bien particulière. Et je crois que ce sont des larmes qui viennent du ciel, parfois. Et ces larmes-là, ben, on vient semer quelque chose chez les autres. L'intérêt de Dieu pour l'autre. Les larmes, tabarouette. Hier, je parlais avec un monsieur, puis j'ai dit, on a un bon livre, ça serait bon pour vous, tout ça. Il dit, écoute, il dit, ma femme est malade, puis il dit, je pleure tout le temps. Fait qu'il dit, j'ai de l'eau dans les yeux, je ne serais pas capable de lire, puis il ferme la porte. Ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant de triomphe, et ceux qui portent la semence pour la mettre en terre ira son chemin en pleurant, mais il reviendra avec un chant de triomphe quand il portera les germes. Moi, je ne peux pas parler. Je dis, avec ferme la porte, j'ai dit, je vais prier pour toi. C'est tout. Vous savez, quand on s'approche de la misère des autres, ça nous fait quelque chose. On va se rapprocher des drames, des douleurs, des décès, des déceptions. Puis on va avoir besoin de se décharger. Puis on va dire, moi, je suis une personne hypersensible. Fait que ça peut être très bien mes larmes, puis pas celles de Dieu. J'ai pas besoin de Dieu pour être touché. Mais on va se rapprocher des drames des gens. Puis on va avoir besoin de se décharger à un certain moment. Puis aussi, on va savoir où se donner, parce que Dieu va dire, ça c'est un besoin, là, ça te touche, là, mais tu ne pourras pas rien faire pour ça. Là. Tu ne peux pas rien faire, le monsieur a fermé la porte, il ne lira pas ton livre, mais tu aurais pu dire d'autres choses. Ah, mais j'aurais peut-être pu dire d'autres choses, puis là, j'aurais rentré. Laisse ça à Dieu. Alors, remets-les à Dieu. Ouais, mais on peut aller y revendre un autre livre, il y avait peut-être un livre qui a réfléchi. J'ai dit, il ne lira pas, il m'a dit qu'il ne lira pas, il a toujours les yeux dans l'eau. Là. On va savoir à quoi se donner aussi. Parce que quand on va voir le Seigneur, on dit, hey, « Seigneur, je t'amène ce fardeau-là. Là. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour ça? » Dans Luc 10, il dit, « Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 2, « Levez-vous, partons. » C'est les autres, les ouvriers. Jésus leur a demandé de prier pour un besoin. Puis après ça, il les a demandé de se lever pour ce besoin-là. Vous n'êtes pas appelés à être pasteur nécessairement, mais vous êtes appelés à vivre pour autrui, là où Dieu vous a placé dans votre famille, votre nièce, votre neveu, un oncle qui est seul. Il y a quelque chose que Dieu veut faire par le Saint-Esprit au travers de vous, et il veut communiquer son intérêt envers eux et leur montrer qu'il n'est pas indifférent. Et c'est à nous de dire, ben OK, Seigneur, parfait, moi, je vais te prier pour ces besoins-là. Je vais m'informer de comment ils vont, puis je vais voir comment est-ce que je pourrais faire la différence, si tu le veux, dans leur vie. Que Dieu vous bénisse, et puis j'invite François pour le message.
One, two. C'est bon, ça marche. Yes. Fait que c'est ça. Cette semaine, je priais sur ce que Dieu voulait que je vous apporte. Puis là, je vais en surprendre quelques-uns. On va parler de l'évangélisation ce matin. Puis il était pas évident à préparer le message parce que c'est pas un message qui est facile. C'est pas un message comme on entend des fois qui flatte dans le sens du poil. Là. Sauf que j'étais pas à l'aise sur certains points, mais j'ai dit non, je connais cette église-là. Je suis venu à l'église Grâce et Vérité pendant quasiment 10 ans. Puis je le sais que deux des points forts, OK, l'église Grâce et Vérité, c'est que c'est une église qui aime la parole de Dieu, c'est une église qui reconnaît, merci Jean-Sébastien, l'autorité de la Bible comme étant la parole infaillible de Dieu. Il n'y a pas un verset qui est mis de côté. Je me souviens des mercredis en question. Les gens pouvaient mettre dans l'offrande des petites questions que les mercredis, les sujets les plus chauds de la Bible étaient ressortaient. Puis une église qui aime la parole de Dieu. Fait que ça, je me suis dit, j'aurais pas peur d'amener aucun verset parce que c'est des gens qui aiment la parole. L'autre point fort, c'est une église connaît la grâce de Dieu. La grâce, elle a été prêchée dans toutes ses facettes, dans toute sa splendeur. Une des choses qui a été le plus bénéfique dans ma vie chrétienne jusqu'à présent, c'est d'avoir une bonne compréhension de la grâce de Dieu. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'églises qui passent à côté. Mais pourtant, le christianisme pourrait se résumer en un mot, la grâce. Fait que pour le message que je vais vous apporter ce matin, là, ayez une perspective de grâce, ok? Que Dieu nous aime, qu'il est gracieux avec tout ce que vous allez entendre. Fait que on va y aller comme ça. Mon message va être très bref. J'ai couru vraiment là comme un malade cette semaine. Hier, je l'ai fini. Là, il y a eu une grosse crise dans la famille hier, puis il a fallu que je gère un paquet d'affaires. Je me suis couché à 4h du matin. J'ai quasiment pas dormi. Si j'en manque des petits bouts, soyez clément. Yes, hein? Gracieux. Yes, fait que c'est ça. Premièrement, ce matin, j'aimerais ça vous parler de Jésus, mais avant, je voudrais vous poser une question. Pouvez-vous me dire, c'est quoi, selon vous, les deux raisons principales pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Je vous laisse la parole. Sauvé? Yes. Puis, ouais, puis la raison principale. Comment? Ouais, glorifier son Père, je dirais. Vraiment, glorifier le Père, puis venir sauver l'humanité. Ça, c'était les deux raisons majeures. Une autre question, ça, c'est quelque chose que j'avais appris ici, il y a plusieurs années. Pouvez-vous me sortir les trois raisons principales pour lesquelles Dieu nous a sauvés? Moi-même. Deux autres. Moi, je vous dirais, la première, encore une fois, glorifier son Père pour sa gloire, okay? Pour nous-mêmes, pour les autres aussi. J'étais tellement béni d'entendre vos introductions en passant. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Ben, tu as sorti un point fort, un des points clés que je voulais amener dans mon message à matin. Ça m'a tellement béni. Qu'est-ce que tu as dit? Jean-Sébastien est venu confirmer un paquet d'affaires que le Seigneur me mettait sous le cœur pendant que je préparais le message. Ça m'a inspiré, j'ai dit « crime ». Je m'en souviens, pendant quasiment 10 ans, j'étais ici, semaine après semaine, le Saint-Esprit à l'œuvre, constamment, Dieu en train de faire des clins d'œil, confirmé constamment par sa parole. Puis qu'est-ce que tu as dit, les deux que vous avez dit, c'est fou comment il y a des points qui ressortaient de mon message, ça me bénissait, c'est ça le cœur de Dieu. Puis c'est vraiment, on se lance dans le message. J'aimerais ça vous lire un petit passage. J'ai appris une chose cette semaine, en lisant un très bon livre sur l'évangélisation. T.L. Osborne, Gagneur d'âme. C'est quoi, j'avais jamais remarqué. Il commence en disant, le plus grand appel, nous sommes des gagneurs d'âmes parce que Jésus l'était. La Bible le dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Elle dit aussi, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver qu'est-ce qui était perdu. Jésus est venu sauver les gens. C'était sa mission du début à la fin. Jésus était un gagneur d'âmes, le plus grand que le monde n'ait jamais connu. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici, ça m'a vraiment fasciné. Il parle de Jésus, il dit au premier groupe qu'il choisit comme disciple, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'êtres humains », dans une autre version, « pêcheur d'hommes ». Puis le dernier groupe qu'il suivit jusqu'à son ascension, entendu Jésus dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a commencé son ministère en disant, « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Ses dernières paroles avant de retourner vers le Père, « Allez par toutes les nations. » C'est ça le cœur de Dieu, « Allez chercher des perdus. » De sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, Jésus avait un objectif en tête, venir sauver les perdus. Après sa résurrection, pendant près de 40 jours, Jésus a continué à côtoyer les disciples, puis même près de 400 personnes qui l'ont vu. Après ça, il a eu son ascension, il est retourné vers le Père. 50 jours plus tard, il envoie son Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Ce même Saint-Esprit, c'est Christ vient fonder son Église. Le mot Église, OK, Ecclésia, qui veut dire tout simplement pas un bâtiment, mais tous les vrais croyants nés de nouveau qui ont placé leur confiance en Christ pour la vie éternelle. Dieu envoie son Saint-Esprit, on devient le temple de Dieu, puis ce même Saint-Esprit-là qui nous a envoyé a pour but de nous donner la capacité de témoigner de Christ. Ça, je vous l'apprends pas, je sais que vous le savez. La Bible donne plusieurs images pour illustrer c'est quoi véritablement l'Église. Okay? Par exemple, dans 1 Corinthiens 3:9, va nous dire, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, la construction de Dieu, Éphésiens 2:19-20, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même la pierre angulaire. Pierre va même ajouter, dans 1 Pierre 2:4, approchez-vous donc de lui, pierre vivante. La Bible dit que chaque membre de l'Église, chaque croyant est une pierre vivante qui sert à bâtir un édifice. Il va dire, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pierre va expliquer un petit peu plus loin que Jésus-Christ est la pierre angulaire de cet édifice-là qui forme finalement son Église, qui tient toutes les pierres en place, qui sont vous et moi. Il y a un autre exemple bien connu, on la connaît, Jean 15, le cep et les sarments. Jésus va dire, mon père est le vigneron, moi je suis le cep, le tronc principal, si on veut. Il va dire, vous êtes les sarments, les branches. Puis à plusieurs reprises, quasiment 9 fois, là, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis c'est comme ça que vous allez porter du fruit. Tu sais. Fait que Romains 6 va dire que nous sommes une même plante avec lui par la conformité à sa mort, etc., etc. La Bible regorge d'images pour illustrer vraiment ce qu'est l'Église. Un autre très bon, dans 1 Timothée, va nous dire que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité dans ce monde. Mais une des images fortes que je voudrais qu'elle retienne notre attention ce matin, Ben en a parlé, la Bible parle de l'Église comme étant le corps de Christ. Jésus étant la tête, nous, on est son corps dans ce monde. 1 Corinthiens 12, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » J'ai entendu plusieurs prédications sur le corps de Christ. J'ai étudié le sujet, mais il y a une vérité au travers de ça qui souvent, c'est un angle mort, on s'arrête pas à ça. Mais c'est une grande vérité. Puis, comme tu disais, Ben, ce matin, c'est tellement vrai. Chaque membre a sa capacité. Tu sais, je veux dire, il va avoir les oreilles, il va avoir la bouche, il va avoir les yeux. Chaque membre est important, même ceux qui semblent le plus insignifiant. Fais juste perdre ta petite orteille, tu vas voir que ton équilibre, tu vas en arracher. Chaque membre est important. Mais une des images fortes du corps de Christ, là, pourquoi? pourquoi que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible prend la peine de nous donner cette image-là, c'est que Jésus-Christ n'est plus présent physiquement. Ok, présentement, sa présence physique dans ce monde, c'est son Église. Christ continue à manifester sa présence dans ce monde. Il est déjà venu parfaitement tout accompli pour le salut des hommes. Ok, puis maintenant, il donne la mission à son Église. Il dit, c'est à vous maintenant de porter le flambeau avec fierté. Tenez votre bannière, Jésus-Christ, sauveur du monde, puis criez mon évangile sur toutes les toits. C'est notre responsabilité. Je voudrais vous lire un petit passage qui m'a béni. L'Église, corps de Christ, n'est pas un bâtiment. Elle se compose de tous ceux qui croient en lui, ça on le sait. Nous sommes sa voix aujourd'hui. Il enfile nos chaussures, il touche les gens par nos mains. Il écoute de nos oreilles, il l'étreint avec nos bras. Son amour s'exprime à travers nous. L'Église ne peut pas envoyer Christ ou son Saint-Esprit en tant qu'un messager spirituel pour bénir les pauvres, réconforter les malheureux, visiter les malades et persuader ceux qui sont perdus de croire l'Évangile. La seule façon pour lui de visiter les malades et de témoigner aux inconvertis est au moyen de croyants et de croyantes comme vous et moi. Son contact se fait au travers de nous. Le ministère de Christ dans n'importe quelle communauté est limité à ceux et celles qui lui permettent de vivre en eux. Il désire ardemment parler du salut aux gens et les convaincre de l'Évangile, mais il ne peut le faire qu'au moyen de croyants et de croyantes qui le laissent s'exprimer par leur bouche. Si les chrétiens sont trop occupés pour aller témoigner ou apporter son message, le Seigneur n'a pas d'autre canal pour exercer ce ministère et le monde inconverti risque d'être perdu. Ceux qui sont malades et en prison peuvent ne jamais être visités par le Saint-Esprit, à moins que des croyants aillent les secourir en tant que représentants de Christ. Les gens peuvent ne jamais voir Dieu, à moins de le voir dans un croyant ou une croyante. C'est pourquoi il est si essentiel que les croyants expriment leur témoignage de Christ en dehors des murs de l'Église, car c'est là que se trouvent des gens en proie à la souffrance et au désespoir. Partager l'amour de Christ avec de telles personnes est le ministère le plus vital et le plus spirituel possible pour un croyant ou une croyante. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a rentré dedans un petit peu. On connaît les deux versets de l'Évangile de Marc, chapitre 16. Jésus va dire, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Il va pousser la coche encore un peu plus loin dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis le bout que j'aime bien, c'est « Ainsi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est pas sur nous que ça repose, c'est sur lui. On y va ensemble, mais il fera pas sans nous. Okay? C'est un ordre. Ces deux passages-là sont à l'impératif. C'est vraiment un ordre que Jésus nous donne. C'est pas seulement aux pasteurs, c'est pas seulement à ceux qui ont le don d'évangéliste. On a tous des dons et talents, ok, comme le corps, c'est un peu l'image du corps, chacun a sa capacité, mais si le corps de Christ, ok, représente la physique, représente la présence physique de Jésus-Christ dans ce monde, là, ben, toutes les parties du corps, ok, devraient avoir la même vision de dire, hey, ensemble, la vision, le but, c'est d'aller chercher des perdus. Qu'est-ce qui animait le cœur de Jésus? Du début à la fin, son cœur, c'était de venir chercher tous ceux qui étaient perdus. Fait que si on a à continuer sa mission, il faut avoir cette optique-là. Peu importe la manière qu'on va se prendre. Moi, c'est correct, c'est du porte-à-porte temps plein. Dieu, il va comme ça. Mais un petit peu comme tu disais, Jean-Sébastien, il y a mille et une manières, ok, d'annoncer le salut aux gens ou juste, je vais revenir là-dessus, ok. Mais le corps de Christ est appelé à avoir tous les membres ensemble la même vision d'aller chercher des perdus. J'ai entendu une image dernièrement, j'ai dit « crime ». C'est vrai. C'est comme si, tu sais, de pas prendre ça au sérieux, là. Savez-vous à quoi ça me fait penser un petit peu? C'est comme si tu te fais engager dans une compagnie, puis t'es content, t'as trouvé une bonne job, puis le patron t'engage, puis c'est bon. T'as passé l'entrevue, tout, il est bien content, il t'engage. T'as tous les avantages qui viennent avec, mais tu rentres le lundi, tu t'en vas t'asseoir, tu veux pas bouger le petit doigt. Tu veux rien savoir de travailler, tu veux avoir tous les bénéfices de l'entreprise, mais tu veux pas travailler pour l'entreprise, comment que le patron va se sentir? Il va se dire, voyons donc, je t'en tire. Mais c'est plus profond que ça encore. Ça, c'est juste une image. Mais pensez à Jésus. Qu'est-ce qu'il a enduré? Il a enduré l'horreur pour nous autres. Puis il me dit, garde, j'ai tout accompli, je n'étais pas obligé, mais je vous ai tellement aimé que je l'ai fait. Je veux juste que ce message d'espoir-là, gardez-le pas pour vous, ce trésor-là. Faites juste le dire aux gens, puis le propagez autour de vous. Un matin, j'aimerais ça vous lire deux petits passages, okay, qui sont difficiles de la Bible. Daniel 12, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Puis on connaît la suite, « Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont renseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. » Apocalypse, chapitre 20. Des paroles dures. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit aussi les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Regardez comment il est dur ce passage-là. Tous ceux que leur nom ne fut point trouvé inscrit dans le livre de vie fut pris et jeté dans l'étang de feu. Puis chapitre 14 va rajouter, « En effet, ils boiront eux aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. » Dans la coupe de sa colère, et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Moi, je me dis, tu sais, c'est des paroles qui sont dures. C'est peut-être les paroles quasiment les plus dures de la Bible. Hein? Okay? Ça parle du jugement dernier, de le sort qui est réservé à tous les non-croyants, tous ceux qui vont mourir sans Jésus-Christ. On peut pas trop devenir familier avec la Bible. De là, ces passages-là, ouais, c'est pas juste des concepts théologiques là, où c'est une réalité. Je veux même pas imaginer une seconde ce que ça va être pour ces gens-là. Des gens qu'on aime, des gens autour de nous, des amis, on peut pas endurcir notre cœur puis faire « Ah, c'est pas grave, je vais penser à autre chose, je mettrai pas le focus là-dessus. » Il faut qu'on aille un cœur pour ces gens-là. Il faut. La Bible va dire à plusieurs reprises « N'endurcissez pas vos cœurs » dans plusieurs contextes différents. Mais c'est notre rôle de pas endurcir notre cœur, de garder... Moi, une des choses qui m'aide à persévérer, OK, dans l'évangélisation, parce que bien des fois, ça me tente pas pantoute, puis, tu sais, la vieille nature pécheresse, là, qui veut rien savoir des choses de Dieu, j'ai besoin de me rappeler des vérités comme ça. De chaque gens que je côtoie, je me dis, tu sais, au moins, que ce soit, je sais pas, moi, marché du travail, que ce soit à l'école, que ce soit les amis, n'importe quoi, quand je côtoie des gens, je me dis, je peux pas juste le laisser comme ça, faut qu'au moins... Peut-être je vais me planter, peut-être ça va bien aller, mais il faut qu'au moins j'essaie de l'avertir, là, parce que c'est inimaginable. Le sort terrible qui attend cette personne-là, il faut garder une perspective éternelle. Okay? Que c'est très sérieux ce qui est devant nous, c'est des destinées éternelles qui sont en train de se jouer. Puis, en tout cas, ouais, je m'aperçois que les chrétiens aujourd'hui, j'étais allé voir beaucoup d'églises, puis je m'aperçois que l'enfer, on n'entend presque plus parler, parce que c'est un sujet qui choque les gens, puis je comprends, c'est inconfortable, c'est désagréable, mais savez-vous que la Bible parle plus de l'enfer que du ciel, ok? Puis le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible juste dans le Nouveau Testament a pris la peine de mettre près de 400 versets. Si Dieu y accorde une importance aussi capitale, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux, là, nous autres aussi. Il y a plusieurs versets dans les Écritures qui sont vraiment inconfortables. Okay? Il y en a deux, là, je veux vous citer. Là, puis là, je veux juste. C'est pas dans le but là, de tomber dans la culpabilité ou dans la honte ou rien de ça. Puis les versets, je vais citer, là, je sais qu'il y a un contexte. Okay? On pourrait faire juste une prédication là-dessus. Là. Puis, mais c'est pas ça mon but, mais je veux juste qu'en arrière de ces versets-là, ça nous démontre comment Dieu se sent, c'est quoi son cœur, puis ce à quoi lui accorde l'importance, puis c'est ça qu'il faut qu'on prenne au sérieux. Luc 9, 26, Jésus va prendre, il va aller dire, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la celle du Père et des saints anges. » On voit le cœur de Jésus ici, c'est quoi, comment ça le blesse, comment ça l'affecte, comment que c'est ça son cœur. Qu'on sorte le message. Ou dans Ézéchiel 38, versets 8 à 9, C'est un passage et tout qui me fait ça dedans un peu. Ça dit Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. On voit le cœur de Dieu. Comment c'est sérieux, c'est sacré pour lui, c'est non négociable. Là. Puis il parle à l'impératif aussi. Fait que il y a un point important, ok, que je voudrais soulever. On le sait, les chrétiens évangéliques, le salut est par la grâce. L'apôtre Paul, il était clair, net et précis là, dans Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce, faveur imméritée, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il va même ajouter dans un petit peu plus loin, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Fait qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est un cadeau gratuit. Mais pourtant, Jacques est raide là, quand il va parler. Qu'est-ce que Jacques va aller dire? Il va dire, tu dis que tu as la foi, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Puis là, il va dire, une telle foi pourrait-elle nous sauver? Il va dire, Jacques 2, 19, les démons aussi croient et ils tremblent. Jacques n'est pas en train de contredire Paul, ok? D'aucune manière, c'est la foi est suffisante pour être sauvé. C'est par la foi, that's it, that's all. Mais ce que Jacques est en train de dire, là, c'est qu'une vraie foi concrète de quelqu'un qui a été régénéré, sauvé, qui a reçu le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, vient vivre en lui, ben normalement, ça devrait être rendu manifeste par des fruits qu'il va porter dans sa vie. C'est juste ça que Jacques est en train de dire. Fait que... C'est ça, petite parenthèse que je voulais ouvrir. Ouais, il y a un point qui a retenu mon attention cette semaine, qui m'a bien béni. On le sait que Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit comme qu'il l'avait promis. Puis le Saint-Esprit a plusieurs ministères, ok, dans la vie du croyant, dans l'Église. Puis je ne vais pas toutes les énumérer ce matin, mais il y en a un qui me bénit vraiment. Dans Romains chapitre 5, verset 5, Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Mais quand que le Saint-Esprit vient déverser cet amour-là, là, ben, il est censé se passer des choses, okay, dans notre vie. Premièrement, on est censé avoir un amour profond pour Dieu. On est censé apprendre à l'aimer de plus en plus de tout notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est un amour agapé, un amour parfait, un amour divin. On est censé tomber dans un émerveillement, une soif de Dieu, une soif de vivre pour sa gloire, mais aussi un amour pour les gens autour de nous, une véritable compassion pour eux autres. Tu sais, il y a des exemples concrets dans le Nouveau Testament. Souvent, on pense que les personnages dans la Bible, oh, eux autres, c'était des freaks, là, c'était des héros, là, puis... La Bible va même dire un moment donné, ils vont parler d'Élie, tu sais, Élie, que ouais, ça va dire, Élie, c'est un homme de la même nature que nous. L'apôtre Paul aussi, tous les personnages, c'était juste des petits êtres humains, c'était pas des grands hommes de Dieu, des petits hommes, des petites femmes avec qui Dieu a fait des grandes choses. Regardez l'apôtre Paul, dans Romains 9, 1 à 3, ça me fesse dedans, puis ça me fait réaliser qu'on a du chemin à faire en crime. Là. Il va dire, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème pour mes frères, mes parents selon la chair. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Les gens que j'ai autour de moi, là, j'ai tellement appris à les aimer là, que si je pourrais, moi, aller en enfer, le mot anathème veut dire être maudit de Dieu, là, c'est un terme très fort, c'est en train de dire si je pourrais aller en enfer à leur place, subir la colère et la justice de Dieu, je le ferais, mais c'est pas possible parce que chacun a son choix à prendre. Puis tu sais, je veux dire, ça appartient à chacun, ça me fait penser à Jésus qui a regardé ce monde-là, complètement brisé, il a dit « Moi, je vais vivre l'enfer à leur place. » C'est ça qu'il a vécu, ça accroît l'enfer à notre place, là, pour nous offrir ce cadeau gratuit-là, finalement, qui nous coûte rien, mais lui, il a coûté terriblement cher. Ou encore, une belle image, Étienne, un homme qui est en feu, qui est en amour, il est passionné pour son sauveur, il est en train de témoigner à une foule. Il a tout simplement partagé sa foi. puis la gang de religieux, tout, ils sortent un câble, ils l'amènent dehors, puis ils commencent à le lapider. Acte 7, 58, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, regardez ça, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il mourut. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Jésus, ça croit. Pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. Jésus, que c'est écrié, pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. Le cœur d'Étienne est aligné avec celui de Jésus. Ils faisaient un ensemble. Comprenez? C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, la vraie vie chrétienne. C'est d'apprendre à avoir une véritable compassion, un amour pour les gens qui se perdent. Ouais. La Bible est remplie d'histoires similaires d'hommes et de femmes courageuses qui étaient prêts à tout sacrifier, premièrement par amour pour Dieu, mais aussi pour leur prochain. Jésus a dit, « La moisson est prête, mais il manque d'ouvriers. Priez donc le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Tu m'as devancé, c'est ça que je voulais dire. Deux chapitres, les deux versets plus loin. « Levons-nous, allons dans la moisson. » C'est pas juste de prier, c'est premièrement prier. C'est vital parce que sans Dieu, on peut rien faire. Fait que c'est clairement de s'en remettre à lui, mais après ça, il faut y aller, il faut se bouger. Puis c'est pas sorcier, là, des fois, juste annoncer le salut aux gens. Il y a tellement de manières faciles, simples. Ça prend juste un minimum d'audace puis de courage, des fois, je vous le dis. Tu as parlé de la persécution dans le monde, je voulais en parler aussi. Savez-vous que c'est terrible comment les chrétiens sont persécutés dans tellement de pays, là? Puis, tu sais, je veux dire, plein de chrétiens qui ont le courage de mettre leur vie en jeu pour aller annoncer le salut, il y a par milliers, ils se font massacrer, ils se font tuer, des familles sont décimées, il y en a plein qui se ramassent en prison. Nous autres, en Occident, OK, on a encore... Je sais pas comment t'aimes, mais on a encore la liberté d'expression, le privilège, la liberté religieuse. On a l'opportunité d'aller crier l'Évangile haut et fort sur toutes les toits. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Faut pas juste enterrer ça, puis c'est pas grave, rester dans mon petit confort. Faut prendre ça au sérieux. Surtout pour honorer ce monde-là à travers le monde entier qui sont persécutés. Là, eux autres, ils rêveraient d'être en Occident pour faire leur ministère puis vivre pour la gloire de Dieu, tu sais. Que c'est quand même nos frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est notre famille, partout dans le monde. Puis une autre affaire que le Seigneur m'a montré cette semaine, juste comme ça, par rapport, j'étais là le soir, puis je réfléchissais, puis Dieu m'a montré, François, ça fait 15 ans que tu es chrétien, que tu fais juste ça, étudier ma Bible, tu connais beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Savez-vous c'est quoi je réalise depuis un an et demi que je fais du porte-à-porte à temps plein? C'est que le monde ne connaisse pas la Bible, ne connaisse à peu près rien de Dieu, OK? Puis à chaque fois que je parle aux gens, là, OK, peu importe qu'est-ce que je leur dis, là, ça me fait réaliser à quel point je suis privilégié de connaître la vérité, de connaître des vérités aussi fortes, puis que c'est pas juste des concepts, non, c'est la réalité, c'est des vérités, l'éternité qui s'en vient, les destinées éternelles qui jouent, à quel point Dieu il est gracieux, miséricordieux, il est bon, c'est pas un père, c'est un papa. Je l'ai tellement vu prendre soin de chaque raccoin de ma vie, je me dis, crime, de connaître ce Dieu-là, de me coucher le soir tranquille sur mes deux oreilles, peu importe qu'est-ce qui va me tomber dessus, même si je crève demain, je m'en vais passer l'éternité avec mon Sauveur. Peu importe les épreuves que je vais vivre, il n'y a rien qui va me sortir de sa main. C'est mon Père, il m'a sauvé, il m'a racheté, il m'a adopté. Puis, tu sais, tu comptais l'histoire, hein, un matin, là, le monsieur qui pleurait hier, puis il y a quelques semaines, moi, c'était la même affaire, une madame qui est pas capable de me parler, à broyer mon gars, elle avait, mon mari a le cancer, là, il meurt, il est en train de mourir, puis des histoires d'horreur comme ça, là, c'est à chaque jour. Il n'y a pas une seule journée, j'entends pas des histoires à te glacer le sang dernièrement. Moi, j'ai de la rage, je suis pas capable de pardonner mon ex, il a poignardé ma petite fille de 3 ans à mort. Puis là, il est encore en prison. Elle dit, c'est comme un cancer qui me ronge par en dedans, là. Puis je pourrais vous sortir des histoires à n'en plus finir. Souvent, le soir, là, je suis écrasé dans j'ai des nuits blanches, OK? J'ai les yeux pleins d'eau. Je suis totalement brisé, défaite, anéanti. Puis ce qui vient me chercher, c'est de voir à quel point qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, OK? Qui réalisent à quel point c'est sérieux, les besoins des gens, puis les destinées éternelles qui jouent. Puis, tu sais, il était un peu intense, là, mon message à matin. Je fais juste ça, moi, parler de la grâce puis de l'amour de Dieu dans la vie. Mais là, j'avais le goût de sortir un message un peu inconfortable dans le sens choqué, sensibiliser un petit peu à un moment donné. Le monde souffre terriblement, là. On n'a même pas idée, tu sais. Puis ce que Dieu me montrait, c'est ça. T'as reçu beaucoup, mon gars. Tu connais plusieurs vérités. Mais tu sais, à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera redemandé. C'est une responsabilité. Là. C'est pas juste d'être à l'église puis se remplir le cerveau pendant 40 ans de vie chrétienne, puis après ça, on va rejoindre le Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu savais? Fait que, tu sais, oui, premièrement, connaître les Écritures. Le Saint-Esprit, son mandat, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Mais ces vérités-là que Dieu nous apprend, c'est pas pour nous, c'est pour les gens autour de nous aussi. Là. Fait que Matthieu 26, Jésus, qui est entré dans le jardin de Gethsémané le soir avec ses disciples. Il venait de souper. C'était la Pâque. C'était ce soir-là qu'il allait se faire arrêter. Il le savait. Verset 37. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Hey, la Bible nous dit que Jésus, il suait des grumeaux de sang. Okay. La médecine aujourd'hui sont capables d'expliquer un petit peu c'est quoi. Souvent, ceux qui sont sentencés à subir la peine capitale, là, les heures avant l'exécution, il y en a qui suent du sang, okay? Tellement que l'effroi, la terreur est forte. Jésus était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Il est venu à 100% payer notre facture, mais il l'a vécu comme un homme, comme un être humain. À 100%, tu sais, puis regardez ça, il va dire, verset 39, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, » Jésus est en train de supplier son Père de le sortir de là tellement qu'il est terrifié. Il sait qu'il n'y a pas juste la souffrance physique de la crucifixion, des coups de fouet, de la couronne d'épines qui l'attend, mais toute la laideur, puis la souffrance de tous les péchés de l'humanité qui va être obligé de porter sur lui, la souffrance spirituelle, émotionnelle, le Père qui est obligé de laisser son Fils, parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ est en train de subir la foudre de Dieu, il est en train de subir tout l'enfer, la colère, la justice de Dieu à notre place. Jésus est en train de supplier son Père, « Sors-moi de là, toutes choses te sont possibles, éloigne cette coupe de moi. » Pensez-vous que le Père n'était pas brisé? En regardant son Fils, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, depuis toute éternité, qui sont dans une relation, pas l'amour comme qu'on l'a connu dans ce monde-là. Dieu, c'est l'amour le plus vrai, le plus pur, parfait. On ne peut pas concevoir une seconde à quel point que le Père aime son Fils, puis le Fils aime son Père. Pensez-vous que le Père n'était pas brisé de voir son Fils dans cet état-là? Mais la Bible nous dit que le ciel est resté silencieux. Ce serait bon dans ce petit temps de silence-là, aller mettre Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fait que si Dieu intervenait, on était tous perdus. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait par amour pour nous. Fait que... Savez-vous c'est quoi la maturité chrétienne? Jésus va donner la réponse. Le verset tout de suite après, qu'est-ce que Jésus va dire? Mais pas ma volonté, la tienne. Puis je pense que c'est là que le combat a vraiment été remporté. Fait que c'est notre responsabilité devant Dieu, toujours, à chaque jour, que ce soit l'évangélisation, n'importe quelle sphère de la vie chrétienne. On a besoin, des fois, c'est un processus, on a toutes nos blessures, nos backgrounds, puis Dieu tient compte de tout ça. Mais c'est d'apprendre de plus en plus à dire, « Seigneur, pas ma volonté, la tienne, que ça fasse mon affaire ou pas. » Regarde, moi, quand je regarde la croix, là, je me dis que... Non. Je vais vous revenir là-dessus. Je pense que... C'est comme le roi David, là, dans le psaume 139, verset 24, David va dire « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. » Savez-vous quoi? Je pense que la première chose qu'il aurait le goût de nous dire, Jésus, s'il viendrait nous voir, là, c'est de nous faire goûter, okay, à quel point qu'il nous aime, puis qu'on est précieux à ses yeux. Premièrement, mettre nos yeux sur sa grâce, right? Okay? Mais après ça, la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Dieu, c'est un Dieu de vérité, toujours rempli de grâce, mais de vérité aussi. Bien, il nous dirait la vérité, là, à quel point que des fois, notre cœur, il est terriblement dur, là, que tout ne tourne qu'autour de mon nombril souvent. Puis, je pense qu'il nous appellerait peut-être à reconnaître ça, puis juste se repentir devant lui, demander pardon. Puis, je veux juste vous donner un bon truc, okay, qui est vraiment indispensable. Là. Peut-être que, ouais, l'évangélisation, je sais que c'est important, puis tu, ouais, mais juste de prier, de dire, Seigneur, j'aimerais ça avoir ce cœur-là pour les perdus. Mais tu sais, par moi-même, je sais pas, ça lève pas, je l'ai pas cette compassion-là. Mais si toi, à tes yeux, c'est aussi important que ça, c'est aussi crucial, capital, c'est ça ton cœur. Seigneur, viens façonner mon cœur, transforme-moi à l'image de Jésus-Christ, je te le demande. Donne-moi un cœur pour les perdus. C'est de se lever le matin, juste prier. Seigneur, c'est dur pour moi, c'est un gros défi, c'est pas évident, mais aujourd'hui, là, si tu veux mettre quelqu'un sur mon chemin, whatever, là, sans y annoncer tout le plan du salut, là, parce que je sais que c'est intimidant, là, mais des fois, tu tapes sur l'épaule, man. Je sais que tu fais le pas, man. Je te vois aller cette semaine, là, puis je veux juste te dire, je tiens à toi, man. Je prie pour toi, lâche pas, gros, man. Ça prend pas grand-chose, des fois, une petite parole. Le monde est rempli de haine. Juste une petite parole d'amour. Juste écouter quelqu'un. Dans le porte-à-porte, 80% d'écoute, souvent. Le monde, ils ont juste besoin de se vider le cœur. Fait que prier, demander à Dieu de venir déposer ça dans votre cœur. Moi, je le fais régulièrement. J'ai supplié Dieu souvent de protéger ce feu-là, cette passion-là, parce que c'est tellement facile de le perdre, puis de tomber juste engourdi, puis étourdi par toutes les... Finalement, les détails, les choses souvent tellement secondaires de la vie, là. Surtout en Occident, le confort, là, c'est dur de rester bouillant pour Dieu au Québec. Là. Quand je regarde la croix, là, je me dis, ma vie, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. T'sais. C'est la moindre des choses que je vienne la déposer au pied de sa croix. Okay? Puis je sais qu'une des choses qui glorifie le plus Dieu, okay, une des plus belles manières de lui dire merci, ben, c'est de partager au plus grand nombre de gens possible qu'est-ce qu'il a fait pour nous, mais qu'est-ce qu'il a fait pour eux aussi. Si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, là, puis ouais, mais tu sais, je veux dire, Dieu appelle pas du monde qualifié, il qualifie ceux qui appellent. J'ai entendu ça un moment donné, j'ai trouvé ça bon. J'ai dit, tu sais, le monde là qui ont toutes les ressources, là la grosse église, là, toutes les ressources, là il y a plein d'évangélistes, des pasteurs, il y a tout le kit. Là. Hey, nous autres, on est capables, puis on va en avoir de l'impact. Si ça lève leur projet, là, hein, on est bon. Hein? Mais du monde qui sont brisés, qui pensent qu'ils sont plus capables, qui sentent qu'ils sont zéro qualifiés, ok, ils sont rongés par la honte, la culpabilité. Là. Dieu regarde ça et dit, eux autres, là, c'est des excellents candidats parce que la gloire va pas leur revenir, la gloire va me revenir. Dieu a dit, je donnerai pas ma gloire à un autre. Fait que pensez pas que vous êtes pas à la hauteur. C'est un mensonge de l'ennemi. Ben, vous êtes pas, personne n'est à la hauteur. C'est juste qu'il y en a qui le réalisent peut-être plus que d'autres. Là. Un moment donné, c'est de s'humilier et dire, merci Seigneur que ça repose pas sur moi. Là. Ça repose sur toi. C'est toi, Saint-Esprit, qui va convaincre les cœurs de jugement, de justice et de péché. Mais tu veux le faire au travers de moi. Parce que présentement, je suis la présence physique de Jésus-Christ dans ce monde-là. Puis c'est à nous, l'Église, de continuer son œuvre. Right? Je l'ai dit, je ne serai pas long ce matin, j'arrive déjà à la fin. Moi, j'ai vu cette église-là pendant 10 ans. J'ai vu les hauts, les bas, toutes les crises, tout ce qui s'est passé. Vous êtes encore là, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, man. Dieu a dit, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Okay? Puis je ne sais pas comment que fonctionnaient vos projets. Puis tout, j'habite à Montréal, là, puis je pense que je sais que vous étiez impliqué dans la communauté. J'ai parlé avec Jean-Sébastien, là, dans les dernières semaines, j'étais tellement béni, OK, de voir le gars, il a un cœur pour les perdus, puis solide, là, OK, puis il a plein de projets, OK. Il veut vraiment avoir cette optique-là, là, de la vision de l'Église, aller chercher des perdus, il peut pas faire ça tout seul, OK. La Bible n'a jamais parlé d'un christianisme solitaire. Il a besoin d'une Église, c'est ça qui fait la force d'une Église. Moi, je vous encourage, OK, une petite étape à la fois, à votre rythme, OK, prenez cette direction-là, de prier beaucoup, puis peu importe les mesures qui sont mises en place, là, la vision de toutes les églises, okay, doit être d'être l'appui et la colonne de la vérité dans ce monde-là, doit être de dire, il faut aller chercher des perdus. Notre vie va passer en un claquement de doigts, puis ça va être fini, on va être déjà dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on a fait de ces petites années-là que Dieu nous a confiées? On connaît la vérité, on a une responsabilité. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je point donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Une chose importante, je voudrais vous dire, Dieu, c'est pas un robot. Là. Il est pas genre, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, ça c'est blanc, ça c'est noir. J'ai tellement aimé ce que tu as dit tantôt, Jean-Serge, dans ton message, ça me faisait justement penser à ça dans ton introduction, à quel point Dieu se soucie de nous. Le sang d'Abel a crié jusqu'à moi, j'ai entendu tes larmes. Ou tu sais, des choses comme ça, l'Éternel est prêt, tous ceux qui ont le cœur brisé, il relève ceux dont l'esprit est abattu. Dieu, c'est un père. Là, il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, c'est lui qui fait battre notre cœur, c'est lui qui nous a tissé dans le ventre de notre mère. Là. Dieu, il est pas mal plus concerné par qu'est-ce qu'on vit, comment qu'on se sent que juste une liste de choses à faire ou à pas faire. Là. Souvent, on tombe juste là-dedans, là, c'est comme, ah ben là, je suis chrétien, c'est facile, là, je suis chrétien, là, j'ai pas le droit de faire ça. C'est de pas comprendre à quel point Dieu nous aime, ça, puis à quel point il soucie de nous, puis peu importe qu'est-ce qu'on entreprend, peu importe ce qu'on est rendu, il vit avec nous. OK? Dieu, il n'est pas indifférent à comment qu'on sent. Il connaît nos peurs. Il sait, c'est quoi? La peur d'être rejeté, avoir de l'air ridicule, pas être à la hauteur. J'aime bien dans Hébreux quand ça dit qu'on n'a pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, car lui-même a été éprouvé en toutes choses. Jésus, en étant 100% à Dieu, Ésaïe va même dire, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il a passé sa vie à souffrir. Puis il a mis le comble à son amour pour nous, finalement, en souffrant une fois pour toutes à la croix. Il sait c'est quoi la souffrance. Pensez-vous qu'il n'en a pas vécu du rejet? Puis, tu sais, fait que... Puis moi, une des choses qui me bénit, là, des fois, là, tu sais, moi, j'avais comme suivi le cours, là, évangélisation explosif, un moment donné, deux fois, tu sais, j'ai suivi ce cours-là. On l'avait donné une shot, puis... c'est super bon, là. T'as comme ton fil conducteur, là, puis là... peu importe où que la conversation va, ça te permet de revenir un petit peu, tu sais, puis... Des fois, je vous le dis, OK, j'annonçais le salut à quelqu'un, là, ça avait connecté avec la personne, c'était super chaleureux, amical, on avait du fun, là, ça intéressait, je comptais un peu mon témoignage, tout le plan du salut. J'avais l'impression que tout avait coulé à l'alerte. La personne, là, elle s'en foutait, là, puis pas à peu près, là, ça. C'est le fun, en tout cas, les jeunes qui ont la foi aujourd'hui, on voit plus ça. Oublie ça, là, elle s'en fout. Des fois, là, je me suis tellement planté, là, j'avais le goût de fondre, j'avais le goût de me sauver, j'étais comme là, l'évangélisation, des fois, là, puis... La personne en sanglot devant moi et tout, donne sa vie à Christ, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, là? On dirait que Dieu fait exprès de faire souvent arriver ça, genre, juste pour me montrer, arrête de te prendre sur tes épaules puis accepte que c'est moi qui marche avec toi, François, là. Ça repose pas sur toi. Fait que, constamment, là, maison après maison, là j'ai-tu dit la bonne affaire, là, j'aurais pas dit ça. Ah non, là, c'était temps d'écouter, là, c'était temps. Constamment, j'étais en train de faire un coin, là. Il y a pas de maison en bas de 5 à 10 millions, là. Okay? J'étais en train, à Boucherville, je suis dans le coin le plus riche, je pense, de tout le Grand Montréal, c'est tous des châteaux, Ferrari, de Lamborghini, toute la quête. Là, tu arrives là, des avocats, des TTT, l'autre fois, prof de philo, ils ont tous des chefs d'entreprise. Là, tu te sens comme un tout petit, là. Mais Dieu, il me dégrise, là, avec le temps. À un moment donné, là, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Hein? Ben, à un moment donné, avec le temps, je suis content parce que le Seigneur m'apprend à arrêter de voir avec mes yeux puis voir avec ses yeux à lui. Tout ça, là, la poudre aux yeux. Moi, je regarde tout ce monde-là, les pauvres, la classe moyenne, les riches. Là. C'est tous des êtres humains, des petits êtres humains qui ont désespérément besoin de Jésus-Christ, ça fait pitié. Je vous le dis, là, à cette heure, je suis comme même me faire envoyer promener des fois, tu sais, j'ai tellement réagi souvent à me faire envoyer promener, puis le diable qui cogne tout le temps, OK, je vous le dis, là. Mais, un qui m'a envoyé promener solide l'autre fois, là, il me parlait, là, pour vrai, j'étais comme, je ressentais rien pendant tout, là, je trouvais quasiment ça drôle, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je réagis à côté, j'ai même lâché une connerie, genre, le bonhomme, il est parti à la rue. On a connecté, on a passé un super bon temps, j'étais dans le plan de salut. Ou comment c'est niaiseux? Fait que, tu sais, faut regarder les gens avec les yeux du Seigneur. Puis, dernière chose, toi, que je voudrais vous dire, Dieu nous connaît, là, puis il connaît nos défis, OK? Puis je vais vous dire là, que plus qu'un défi est grand, OK? Plus que c'est un Goliath dans notre vie, OK? Bien, plus que si on choisit de faire confiance à Dieu, peu importe comment ça va se passer, Seigneur, accepter l'Évangile coûte rien, la répandre coûte tout, j'y vais, OK? Je pense pas que je suis à la hauteur, je vais probablement me péter à gueule, là, puis faire rire de moi, là. Sais-tu quoi? Toi, tu l'aurais fait pour moi, bien, j'y vais. Puis des fois, c'est d'arrêter de penser, puis de réfléchir, puis juste faire le mot. Des fois, moi, je passe en char, là, puis là, j'en vois un, là, il file pas bien, là, il est à terre, puis tout. Là, je fais juste ça, évangéliser, là, je peux prendre un break, là. Puis là, je suis rendu 4 boulevards plus loin. Ah, c'est correct, t'as gagné, Dieu, là, j'en reviens de bord, tu sais, j'y vais, puis finalement, super bon temps avec le gars, puis je repars de là, puis tu sais, je veux dire, Dieu me fait réaliser à quel point que aimer les gens, puis apprendre de voir toute leur souffrance. Des fois, ça te rappelle à quel point que t'es privilégié puis t'es bien là, avec Jésus, puis que finalement ta vie c'est peut-être pas si pire que ça. Là. Ça t'apprend à enlever un petit peu ton focus de sur toi. Là. Ça, c'est vraiment béni. Puis plus que le défi est grand, ok, ben plus que si on choisit d'y aller, Dieu, là, ben ça va l'honorer, ok. Puis vraiment en conclusion, dernière phrase. Quand Jean-Seb est venu à Boucherville, l'autre chat, faire du porte-à-porte, on a jasé, puis on parlait d'une chose, sans rentrer dans les détails, mais tu sais, il y a des choses qu'on trouve vraiment dures dans la vie, OK? Il y a des choses que, mettons, je sais pas, moi, le rejet, OK? Ou bien l'évangélisation, tu sais, il y a des choses qui sont difficiles, OK? Moi, j'ai un gros passé, je m'aperçois que j'ai des traumatismes de mon passé, puis des fois, je réagis, là, je suis comme, je n'ai même pas capable de penser, j'ai juste des réactions, puis wow, qu'est-ce qui se passe, puis... Un paquet de souffrances que j'ai vécues, puis de mensonges que l'ennemi est venu me rentrer dans le crâne au fur et à mesure. J'ai développé des mécanismes de défense. Je me suis ramassé dans des prisons émotionnelles. On est pécheurs. On est des êtres vraiment dysfonctionnels. Okay? Puis, mais je m'aperçois que plus qu'une situation est dure, plus que ça fait mal, okay, ici, puis que tout en dedans tout, un goût de faire, moi, c'est pas Dieu, là. Je vais y aller à ma manière, là. Ben, un petit peu comme... Abraham, quand Dieu lui a demandé de venir y offrir son fils en sacrifice, Dieu voulait pas vraiment qu'Abraham offre son fils en sacrifice, mais il a voulu le mettre à l'épreuve. Là. Puis tu sais, je veux dire, t'es-tu prêt à me donner quasiment ta raison de vivre, là, ce qui est le plus cher à tes yeux? Moi, je vous donne un exemple. J'ai vécu du rejet dernièrement dans une situation, puis celle-là, elle m'avait vraiment fait dedans. Parce que quand c'est du monde que tu connais pas, c'est pas si pire, mais quand c'est du monde que tu connais, des fois, ça cogne dur en tabarouette. Puis en plus, le contexte avait un lien direct avec mon enfance, là, tu sais. Puis là, je vous le dis, pendant 3 semaines, j'ai filé dépressif. Je me levais le matin, je pensais juste à ça, je broyais du noir, j'évangélisais la journée longue, je pensais juste à ça. J'étais pas capable de décoller de ça. Genre, j'étais pogné là-dedans, j'étais enchaîné là-dedans. Puis j'ai dit, Seigneur, comment que je vais faire pour m'en sortir? Puis là, je vais juste attendre que le temps passe. Je vais dire, ça va se placer avec le temps, puis je vais l'enfouir là, dans le fond de mon cœur, comme bien des affaires. Je vais continuer, puis je vais m'être dans le déni, là, comme si de rien n'était. Mais en dedans de moi, tu sais, je veux dire, c'est comme un cancer, là. Puis ce que le Seigneur m'a montré, vraiment, là, c'était spécial. Là. Il m'a montré, des fois, là, quand Dieu nous parle, c'est dur à verbaliser aux gens. Là. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux. Là. Dieu m'a montré, là, je le sais, à quel point ça te fait mal, à quel point tu souffres, à quel point tu es pogné là-dedans. Okay? Mais tu sais, François, si tu choisis, là, ok, non seulement de pardonner puis de les aimer, ok, réalises-tu à quel point c'est un beau cadeau que tu es en train de me faire, puis à quel point que ça m'honore? Puis ça m'a touché. Tu sais, je me suis dit, quand je regarde la croix de Jésus, là, je me dis, quel privilège d'aller déposer de quoi de précieux. Plus que ça me coûte cher, plus que c'est précieux aux yeux de Dieu, plus que ça fait mal, plus que, tu sais, plus qu'à ses yeux, ça a de la valeur. Comme Abraham qui était prêt à aller jusqu'au bout, même avec son fils. Fait que j'ai décidé de l'emmener au pied de la croix. OK? Puis j'ai dit, Seigneur, ça va être ta volonté, pas la mienne. Puis sais-tu quoi? Je le fais avec joie parce que c'est tout qu'un privilège de pouvoir te l'offrir en comparaison avec ce que toi, t'as été pour moi. Là. Comprenez un petit peu ce que je veux dire. Fait que puis après ça, je suis reparti les jeux, j'en revenais pas, puis j'ai dit c'était même genre là, c'est correct, là, j'ai de l'amour, j'ai de la joie, puis je me dis mes convictions sont claires avec Dieu, je veux vivre pour sa gloire. Puis ça va être tout croche jusqu'à la fin de mes jours. On est des pécheurs, on est né pécheurs, on va mourir pécheurs. Mais Dieu est capable d'utiliser les choses faibles du monde, confondre les fortes. Il est capable d'utiliser les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu est tout puissant. Quand il entreprend quelque chose dans la vie de son enfant, là, mais faut accepter de juste pas endurcir notre cœur, puis le laisser œuvrer, là, à un moment donné dans notre vie. Avoir un petit peu d'audace, fait que la vision de l'Église, elle est perdue. Okay? Ayez ça au plus profond de votre cœur. Là. C'est notre mandat à tous les croyants. Vous avez un bon pasteur qui a une direction qu'il veut prendre. C'est courageux. Puis je sais que c'est pas évident pour personne. Allez-y une petite étape à la fois. Essayez de mettre des choses en place. Hein. Tranquillement, pas vite. Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Moi, bon, là, j'ai plus vraiment le temps, là, mais tu sais, ça fait 15 ans, je suis chrétien. Quand je suis arrivé ici, je sortais de la toxicomanie, j'étais tout croche. J'arrivais à l'école de la rue, j'ai évangélisé à peu près tout le monde dans cette école-là. J'ai tellement vu la gloire de Dieu. Vous pouvez même pas imaginer. La directrice m'avait dit au début, si tu parles encore de Dieu et ça, François, je vais te mettre dehors. Mais la directrice, la même directrice, a tellement vu Dieu agir dans la vie de plein d'élèves qu'à la fin, elle est venue me voir et arrêtait pas de me poser des questions sur Dieu. Elle n'en revenait plus. Là. Okay? Après ça, Je suis allé, bon, je travaillais dans un shop, je m'arrangeais pour que tout le monde le fasse. J'en ai vécu du rejet. Un peu plus tard, je suis arrivé, je sais pas, moi, à Montréal, tain, c'est chantier de construction. Les gars, ça lâche des jokes de sexe un après l'autre. Moi, j'embarque pas là-dedans. Ouais, en gros, toi, ben, je crois en Dieu, tu sais, puis j'explique ça. Moi, je me garde pour le mariage, les boys. Tu veux devenir un animal de cirque, là, sur un chantier de construction, va dire que tu te gardes pour le mariage. Je me dis, ça va les choquer, puis ça va, tu sais, c'est de même que le party va pogner, là. Voyez-vous, je finis avec ça. Je vais vous conter cette histoire-là de chantier de construction. C'est juste pour vous donner des images de comment que des fois, c'est pas tant sorcier, OK? Juste être un témoignage chrétien puis se tenir pour l'Évangile. Non, il arrêtait pas de cacher mes outils, là. Il me cherchait tout le temps. Il arrêtait pas de me provoquer, là. Puis, ben, tu sais, il écœurait tout le monde. Puis, lui, justement, au break, il dit, « Hey, les boys, vous savez pas quoi? » On était une vingtaine, là, dans la salle de break, tireur de joint, tu sais, dans ce temps-là. Puis, il dit, « Ce gars-là, là, tant qu'il est pas marié, man, il se garde le mariage, tu sais. » Fait que là, Alain, chef d'équipe, croyait même pas ça. Hein, on dit, là, non, je suis bien sérieux, je crois en Dieu, tu sais, je suis chrétien. Puis là, ma femme, je l'ai fiancée, puis tout. Mais nous autres, non, tant qu'on n'est pas mariés. Ah, les gars, ils étaient crampés, mon gars, ils croyaient pas à ça, puis tout. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai 15 minutes, c'est le break. Ça, je vous dirais pas ça, là, mettons. Asseyez-les pas, là, si vous êtes pas trop habitué d'annoncer le salut ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, allez-y à votre rythme. Mais tu sais, je me dis, OK. Là, il y en avait un, Dave, OK? Ça, c'est un petit peu le coq du chantier, là. Lui, il était cool, tu sais. À chaque fois qu'il parlait, tout le monde écoutait, ah ouais, Dave, tu sais. Fait que je me suis dit, si je réussis à le convaincre lui, moi, tous les convaincre, tu sais. Fait que là, je dis, hey, Dave, j'ai une question pour toi. Fait que là, ah ouais, vas-y, man. Fait que je dis, toi, mettons, là, tu sais, je te le souhaite pas, là, mais mettons, tu mourrais aujourd'hui, là. Il arrive un accident, puis tu te retrouves devant Dieu. Oh, il existe pour de vrai, là, tu fais le saut. Fait que Dieu, il te poserait la question suivante, Dave, pourquoi est-ce que je devrais te laisser rentrer au ciel? Qu'est-ce que tu répondrais à Dieu, là? Fait qu'il me dit, ah, hey, moi, man, j'ai déjà une blonde, là, puis j'ai eu des cours bibliques avec, là, puis hein, t'es-tu sérieux, toi? Ah, oh, ouais, là, tous les gars. Ah, ouais. Puis là, genre, il dit, ben, justement, qu'est-ce que tu répondrais? Ben, écoute, man, j'étais un bon Jack, tu sais, je suis pas parfait. Fait que la réponse classique, là, de j'étais une bonne personne, là, il vient d'embarquer dans l'entonnoir, tu sais. Fait que là, pouf, j'en ai tout le plan de salut, t'as entendu une mouche voler, là. À la fin, j'ai juste eu le temps de te finir le plan de salut. À la fin, tout le monde était sous le choc, là. Ils pensaient pas que c'était ça, l'Évangile, là. Ça les a saisis. Puis d'aplomb, les semaines qui ont suivi, ça a pas été drôle, là. J'étais rendu le pape François, puis mettez-le tout, là. Mais, savez-vous quoi? Je me ramassais tout le temps on faisait des HLM dans une chambre d'un des HLM, à tirer des joints, puis Dieu s'arrangeait tout le temps pour m'envoyer un gars différent. Puis le gars, quand il était tout seul avec moi, là, il me bombardait de questions sur ma foi. Puis je me souviens d'un gars, là, tu te tires à la tête tout le temps pour être sûr qu'il n'y avait pas personne. Moi, je tirais des joints, puis je trouvais ça drôle, j'y répondais, tu sais. Puis Normand, qui cachait mes outils, s'est fait mettre dehors du chantier, tellement qu'il était mal commode, là. Puis là, le monde l'haïssait, là, OK, parce qu'il était vraiment pas du monde, là. Puis là, il n'y a pas de char, il reste à Verdun, le chantier est à Longueuil, puis là, Alain, le chef d'équipe, dit là, Normand, il n'y a pas de char, puis il demande si quelqu'un pourrait aller mener ses outils. Puis moi, tout le monde le sait à quel point il m'a traité comme de la chenoute, là, du début à la fin, tu sais. Puis là, dans ma tête, la petite voix de Dieu qui me dit, là, c'est le temps d'être un témoignage. Quoi. Ah ouais, lève-la ta main, tu sais. Ouais, je vais y aller, tu sais. Le monde, hein, donc, tu t'as traité comme de la merde, tu fais là, puis tu sais. Ben, je me dis, là, je leur ai dit, ben, tu sais, ce que Dieu est pour moi, je veux l'être pour les gens autour de moi. J'ai juste dit ça, tu sais. Le monde, ça parlait pas, ça réfléchissait, tu sais. Finalement, j'étais allé voir Normand, quasiment une heure de route avec Alison. Il était touché, là. Il était vraiment touché, là. Il me dit, hey, Vincent, mon meilleur chum sur le chantier. Même pas capable de venir me porter mes outils. Il dit, je le sais que j'ai pas été correct avec toi, Frank. C'est toi qui viens me porter mes outils. Il s'en vient me présenter, ces deux gars. Il était tellement fier. Il me sort un petit livre des AA. Il dit, ah, moi, j'ai fait du meeting. Moi, j'avais emmené un petit Nouveau Testament. Je voulais te donner ça. T'sais. Puis, deux fois, il a braillé. Quand on était rendu dehors, j'oublie le micro. Quand on était rendu dehors, il est venu nous revoir encore. Puis, tu sais, il avait les yeux plein d'eau. Puis, ça le touchait. T'sais. Puis, j'avais dit, là, man, je voulais juste te donner ça. Puis, tu sais, Dieu, il t'aime, Normand. Puis, tu sais, j'avais vraiment eu un bon temps avec, puis finalement, le big boss, Stéphane, qui a l'entreprise, j'ai jasé avec cette semaine-là, puis il me dit, Frank, Normand, il a passé 15 ans en prison, hein, puis il a passé un an au complet dans le trou en prison. Là. Comprends-tu comment il est viré zinzin, là? Fait que, d'être de même, mais tu sais, je veux dire, mais j'ai eu de la compassion pour ce gars-là, je l'ai rappelé après, puis l'invité à des événements, tu sais, puis j'ai vu la gloire vraiment de Dieu à Victo. J'en ai tellement évangélisé le monde en disant, là, si vous sauriez le nombre de monde qui viennent m'écrire de cet incite sur Facebook, des vieilles semences qui ça me riait dans la face solide. Là, le monde, le cœur dur comme de la roche, t'es comme, tu fais là, toi, arrête de perdre ton temps. Puis puis Dieu me ramène un paquet de monde, puis j'ai le privilège de pouvoir récolter ce que j'ai semé v'là des dizaines d'années, v'là, je veux dire, une dizaine d'années. Fait que je suis tellement béni, là, découragez-vous pas, faites confiance à Dieu. Celui qui sème avec larmes moissonnera, avec chant d'allégresse, faut être courageux, faut avoir de l'audace, c'est là que ça se passe. Là. Fait que, amen!
Ça conclut.